excusez-moi, la Grand Place, c'est par là ?
Ah oui, c'est là-bas.
Bruxelles, Grand Place. Des magasins de chocolat et de gaufres se disputent les faveurs des touristes jusqu'au Manneken Pis. Là, avec un saxophone ou une guitare sur le dos, de jeunes musiciens sortent du conservatoire. Ils s'engouffrent quelques mètres plus bas, derrière une façade de pierre et de dorure. On suit le mouvement et l'on se retrouve dans le restaurant du Cercle des Voyageurs. Au fond, un étroit escalier nous mène vers les caves.
Nous sommes au Cercle des Voyageurs, dans la cave, qui est une des belles caves voûtées du centre de Bruxelles, et avec un restaurant au premier, et cette cave voûtée qui se transforme en club de jazz tous les deuxièmes mardis du mois, entre autres, pour les étudiants du conservatoire de jazz de Bruxelles. Moi, je m'appelle Manuel Hermia, je suis saxophoniste de jazz, compositeur, improvisateur, musicien, quoi. Voilà. Oui, enseignant aussi, parce que c'est important d'être aussi dans une logique de passation du savoir. Ça fait pas très longtemps que j'enseigne, ça fait un an ou deux maintenant, mais c'est, voilà, ça me tient très à cœur aussi de rentrer dans une logique de transmission. Ouais, c'est gay, ça se passe bien, c'est la deuxième fois, et il y a une génération de fous là, ils jouent comme des dingues. À chaque génération, on sent vraiment dans le milieu du jazz, il y a un plus. Voilà, nos grands-parents, il y avait quelques jazzmen en Belgique, ils ne savaient pas trop comment ils apprenaient en écoutant les 78 tours. Et puis la génération d'après, celle de mon prof Steve Ouben, bah, ils étaient déjà un peu plus. Il y en a quelques-uns qui ont été étudiés à Berkeley. Et puis voilà, maintenant il y a 5 conservatoires de jazz en Belgique. Et les mecs qui y ont accès avec des stages depuis qu'ils ont 12 ans, ou parfois il y a des enfants de musiciens qui commencent bien plus tôt. Et donc on se retrouve avec des mecs de 18 ans qui jouent déjà comme des brutes complètes. Ça n'existait pas avant, on n'avait pas ça. Donc c'est chouette, c'est une super dynamique.
Moi je reviens.
Bonjour, comment ça va ?
Bien. On vient de finir le concert là, qu'on a fait à Aaron Goldberg là, le samedi.
Je suis.
Ça vous intéresse pas sur le papier ?
Je n'ai pas le parfum, j'ai pas l'anglais. Yeah, musician, yeah. I'm on Erasmus. I'm from Italy, yeah. I've just arrived in September, and it's cool. I enter in the Bruxelles nightlife. It's very cool. There are a lot of great musicians, great artists. This is a jam with all students of conservatory, organized, managed by the conservatory, and it was very interesting because it's also not only a party for drink and play, but also didactic. You know, it's also a part of our course.
Thank you.
Cheers.
La France, c'est ouvert.
Aussi, c'est intéressant. Ok, je m'appelle Oscar Georges et je suis batteur. Au niveau des rencontres, ce qui est bien, c'est que Bruxelles, c'est une ville qui est internationale de base, de toute façon, c'est une capitale. C'est la capitale européenne aussi, du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent. Et on rencontre plein de gens de différents pays, on apprend comment est-ce que ça se joue la musique là-bas. La musique, elle se joue pas pareil déjà d'une ville à l'autre, au sein d'un même pays. Donc d'un pays à l'autre, il y a forcément des petites différences. Certaines personnes qui préfèrent si on parle vraiment de la base de la base, il y a plein de différences déjà entre les villes, des gens qui préfèrent des tempos, des gens qui préfèrent des standards, des gens qui ont appris des choses en fait en commun et que c'est pas les mêmes qu'ici. Et voilà.
T'aimes bien jouer avec tes élèves?
Ouais, écoute, c'est parti. Je le vis, j'essaie de pas le vivre comme ça en fait. C'est voilà, on est tous musiciens et c'est un milieu où il y a beaucoup de jugement. Moi, quand j'étais gamin, j'en ai pas mal souffert de ce jugement. Et j'essaie de pas voilà, justement de créer des jams, ce que j'appelle des jams saines, c'est-à-dire des jams bienveillantes où les mecs viennent, on prépare une liste de morceaux qui est pas une liste limitative, mais ceux-là, ils savent qu'ils peuvent les bosser, venir avec et tout. Parce que parfois, une jam, ça peut être très destructif pour des jeunes musiciens.
Et qu'est-ce que ces élèves, ces musiciens, ils apprennent en se retrouvant comme ça le soir dans une jam session qui ne se passe pas en cours ou chez eux, une jam?
Mais ici, dans une jam, ce qui se passe, c'est la vraie vie du jazz, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment de rencontre. C'est un moment où tout le monde se lâche, se laisse aller. Et puis tu joues avec ce que tu es ici, aujourd'hui, quoi. Voilà. C'est vraiment c'est plutôt nouer du réseau social à l'intérieur d'un cercle de gens qui existent déjà, mais où il y a des croisements qui ne se font pas, parce que dans les couloirs d'une école, bon, c'est un peu plus rigide que dans une cave avec un bar où il y a de la bonne bière, quoi. Il n'y a rien à faire. Tout est plus souple. De toute façon, tu ne joues pas à 10h du mat ou à 3h de l'après-midi comme à minuit, quoi. Donc c'est chouette. Et quelque part, c'est un modèle social, le jazz, parce que chacun est un peu dans son coin, c'est difficile d'étudier cette musique. Et puis au moment, ça se partage. Voilà. Le moment ultime, c'est celui où tu vas être avec des gens, discuter avec eux, et partager cet espace sur scène. Je trouve que c'est un très beau modèle social de liberté partagée. Toi, tu veux ceci, mais à chaque moment, tu dois t'adapter à ce que l'autre veut aussi. Et donc tu fais jamais vraiment ce que tu veux. Improviser, c'est ça, c'est tout le temps être surpris, devoir changer ton propos, t'adapter. Alors ce qui est chouette au conservatoire, c'est qu'ils ont une ligne traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils veulent pas céder sur les bases, ce que je trouve très important. Donc il faut étudier l'histoire, il faut étudier ses classiques, etc. Après, je trouve que c'est aussi important, si tu donnes des racines à des jeunes gars, d'aussi leur donner des ailes, quoi, et dire voilà, il faut savoir faire ça, mais vous pouvez leur donner des outils pour qu'ils créent autre chose, quoi. Ben, la musique de demain, c'est eux qui vont la faire, c'est plus nous, quoi. Bruxelles est une ville ouverte et cosmopolite où il y a un peu plein de gens qui viennent de partout. Et moi, j'ai pas mal d'amis qui viennent du sud de l'Europe, entre autres, où il y a un manque d'écoles de jazz. Alors souvent, ils viennent étudier plutôt en Hollande ou dans d'autres écoles. Et puis après, ils viennent à Bruxelles parce que c'est une belle plateforme cosmopolite. Et je trouve que ça enrichit tout le monde, en fait, parce qu'il y a du mouvement. C'est pas tout le temps les mêmes personnes. Il y en a qui arrivent, qui repartent. Et ça crée un terreau, pour moi, un terreau très fertile. Les loyers sont pas trop chers, c'est pas Londres ou Paris. Donc Bruxelles, c'est devenu une ville comme ça où les gens viennent parce que il y a moyen de vivre en te centrant sur ta création. Thank you.
la vie du jazz a toujours été intense à Bruxelles. Rien que rue de l'Évêque, qui avait 18 établissements avec orchestre.
Nous sommes avec Marc Danval, chroniqueur passionné de la troisième oreille sur la RTBF. C'est surtout un témoin privilégié de la vie du jazz à Bruxelles depuis les années 50. Élégant et rieur dans son costume orange vif, il restitue pour nous l'apparition du jazz dans la capitale.
Et c'était quoi les grands quartiers de jazz ?
Ben, les grands quartiers de jazz, ça n'a pas beaucoup changé. C'était le centre de la ville et ce qu'il y avait autour de la Porte de la Mûre, où beaucoup de choses ont été démolies. Il y avait une rue fabuleuse qui était la rue du Bastion, où il y avait le Bœuf sur le Toit, où là on jouait, c'est Benny Carter qui faisait les arrangements pour l'orchestre. Et en ville, bon, il y avait une prolifération de boîtes.
Donc là, on parle de quelle époque ?
Ah, on parle de l'aube des années 50. Mais au départ, le jazz a démarré en Belgique dès la fin du 19e siècle. Il a démarré par des troupes de Noirs qui venaient ici ou des orchestres américains. Et alors, ces gens qu'on appelait des minstrels, qui étaient habillés d'une façon assez loufoque et se maquillaient le visage en noir. Et bon, donc ils chantaient un répertoire noir, mais ils étaient blancs. Et souvent, ils étaient belges et ils passaient dans les cabarets, dans les musicals. Ça a été une des premières manifestations. C'est la seule capitale européenne où il y avait ce qui allait devenir le jazz, qui est arrivé en 1920 dans les caves du Théâtre de l'Alhambra avec The Mitchell Jazz Kings. Alors là, ça a été l'éclatement et tous les musiciens ont été voir ça. Et puis, ça a été la prolifération de petites formations belges.
Et à votre avis, pourquoi à Bruxelles spécifiquement ?
Tout simplement parce qu'il y a un public pour ça dès le départ. Il y a des gens qui étaient très choqués par ce qu'ils appelaient bêtement la musique nègre et qui était évidemment une musique de sauvage. Hein. Bon, alors, mais disons qu'à 60%, ce que je trouve quand même pas mal, les gens étaient très partisans des danses américaines et des débuts du jazz. Ça a commencé très tôt et ça n'a plus jamais arrêté. Et puis on a eu de très très grands musiciens dans le domaine.
C'était qui les grands noms justement ?
Les grands noms, ben évidemment, numéro un, il y a Toots Thielemans, qui était de très loin le plus grand jazzman belge, que je ferai suivre immédiatement de Philippe Catherine. Et puis, il y a Steve Houben, il y a Charles Lowes, on n'a jamais eu autant de jazzmen que maintenant.
Et j'imagine que c'est devenu des amis, c'est un petit milieu.
Oui, c'est vrai que je connais absolument tous les jazzmen de mon pays. Moi, j'ai été pendant de très nombreuses années un oiseau de nuit, parce qu'après les concerts, les musiciens jouaient, on savait où. C'était où l'Arrose Noire ou le Blue Note, il n'y avait pas 36 solutions. Et ça, c'était évidemment un climat tout à fait fabuleux, dans la fumée des cigarettes à l'époque. Et quand même, on ne se laissait pas aller sur le plan de l'alcool.
Et où est-ce qu'on va prendre son petit déjeuner après une longue nuit de musique ?
Généralement, on allait sur la Grand Place. Il y avait un café qui s'appelait Chez Marraine que et où on mangeait des huîtres avec du chocolat chaud, ce qui est quand même un alliage assez curieux.
Et quels sont les lieux aujourd'hui où vous sortez encore ?
Ah, moi, j'ai une tendresse pour l'Archiduc. Et puis, j'aime beaucoup le Sounds et la Jazz Station. Parce que peut-être que j'ai été au démarrage de ce qui est devenu maintenant une institution. Et une salle magnifique dans une vieille gare, c'est quand même pas mal.
Suivant les conseils de Marc Danval, nous nous rendons un soir de concert à la Jazz Station. Son jeune directeur, Kostia Pace, nous en fait visiter les coulisses avant l'arrivée du public.
Alors la Jazz Station, c'est un lieu qui est relativement atypique par rapport à ce qu'on peut attendre d'un club de jazz, par le lieu en lui-même, qui est une ancienne gare, donc c'est un lieu qui est plutôt grand, lumineux, enfin pas du tout dans l'imaginaire du club de jazz. Voilà. Après, sur la scène jazz, je pense que c'est un des grands lieux de Bruxelles. La seule petite différence, c'est qu'on est excentré par rapport aux autres lieux. C'est à Saint-Josse. Saint-Josse, c'est au nord-est de Bruxelles. C'est entre le quartier européen et le nord de Bruxelles, donc qui est une commune qui s'appelle Schaerbeek.
C'est un peu un carrefour.
Tout à fait. C'est une toute petite commune qui est très intéressante parce que ça fait 1 km², il y a 150 nationalités différentes. Il faut savoir que Saint-Josse, c'est un quartier majoritairement turc. Alors, la difficulté qu'on peut retrouver, nous, dans notre programmation, c'est que le jazz n'est pas du tout ancré dans la culture turque parce qu'il y a plein d'autres musiques en Turquie, il y a plein d'autres musiques qui fonctionnent sur le même principe d'improvisation, etc. Donc, on n'a pas un public de Saint-Josse véritablement qui vient chez nous. Après, les enjeux qu'on peut avoir, c'est essayer d'amener un public européen, donc qui vient du Parlement, qui sont là plutôt en semaine. Dans une saison à Bruxelles, il y a, on va dire, en gros, il y a 20 lieux qui programment du jazz de façon hebdomadaire. Donc c'est énorme. C'est, je pense, une des scènes les plus prolifiques d'Europe. La ville de Bruxelles, la région bruxelloise mettent beaucoup d'investissements dans le rayonnement du jazz à Bruxelles. C'est considéré comme la capitale du jazz en Europe. Et au même titre que le chocolat, la bière ou la bande dessinée, maintenant le jazz, je crois que c'est un peu ce qui représente Bruxelles aussi. Et c'est une musique de la ville aussi. Ici, c'est une des rares gares en Belgique qui existe encore, qui soit en fait à cheval sur les voies. On donne directement sur le train qui passe encore. C'est la ligne qui va de la gare du Nord à Schumann. Les trains ne s'arrêtent plus, mais voilà, là, en journée, on les entend passer, on les entend klaxonner. Ça fait aussi le charme du lieu.
C'était quoi le nom de la gare ?
C'était la gare de la Chaussée de Louvain, et c'était donc la gare de Saint-Josse, en fait. Donc là, on se trouve dans la salle principale qui est en fait l'ancien hall de la gare. Donc voilà, sur la scène, on a un beau piano et une batterie. C'est aussi la salle où il y a le bar. Et le bar fonctionne en silence. On fait vraiment attention à ce que les musiciens ne soient pas des jukebox.
C'est quoi la bière du mois ?
C'est une collaboration entre la brasserie de la Seine et la brasserie Thierry.
Elle est aussi amère alors ?
Elle est amère et fruitée à la fois.
Alors la soirée de ce soir est une soirée très spéciale pour nous et je pense aussi pour les musiciens. Donc Nasana, c'est sans doute le groupe emblématique des années 80-90 à Bruxelles. C'est le groupe qui a donné plus tard Akamoun, qui est un des trios les plus connus de Belgique. Pour la petite histoire, Nasana, c'est en fait le trio de Akamoun tel qu'il est connu aujourd'hui, donc Stéphane Galland, Michel Hadzi-Georgiou et Fabrizio Cassol, plus Pierre Van Dormael, qui était le leader du groupe Nasana. Malheureusement, Pierre Van Dormael est décédé. Et une trentaine d'années plus tard, donc aujourd'hui, il y a eu une volonté de rassembler des enregistrements live pour en faire un album, parce qu'il n'y a jamais eu d'album qui a été fait jusqu'à présent de ce groupe.
Quoi, vous êtes des aficionados
ou... Nous, on aime le jazz, ouais, nous, on est des amateurs. Hein, on est Gilou, on est des amateurs de jazz, nous.
Vous êtes bruxellois ?
Moi, je suis parisien d'origine. Depuis 25 ans, on est là, donc on connaît un peu.
Vous, c'est quoi votre nom ?
Antonio.
Véronique.
Attends, on est rentré dans l'histoire, c'est cool.
Vous venez souvent ici, à la Jazz Station ?
Ouais. J'habite au sud, mais je connais bien ce lieu, ouais. J'adore, le son est bon et on vient souvent là.
Il y a une bonne écoute. C'est pas un club de jazz. D'ailleurs, je crois qu'ils se définissent comme un lieu de jazz et pas un club de jazz, je pense.
Et ce soir, le groupe de soir, alors vous les connaissez déjà ?
Alors le groupe de ce soir, moi j'ai ma petite anecdote personnelle vis-à-vis d'eux. C'est un groupe mythique. Hein. Mais surtout, ce qui est rigolo, c'est que j'ai toujours voulu les voir en 24 ans. On les a jamais vus à Camoun. Alors ça fait 20 ans qu'on est là et qu'on adore le jazz. Et moi, la première fois que je les ai vus, c'était à Lyon. J'allais visiter mon fils à Lyon et ils passaient à Camoun. Et là, j'ai pris la claque... magistral. Vous les avez déjà vus ? Vous allez comprendre.
Ça déménage. Oui, oui.
C'est
oui,
hallucinant.
Et le guitariste aussi, les deux ensemble, je crois que ça va être explosif.
Je crois que ça commence.
Tout à l'heure. Bonsoir. Hervé 100.
C'était un concert un peu particulier. Qu'est-ce que ça représente ?
C'était un concert très particulier parce qu'on a rejoué de la musique qui a été jouée il y a plus de 25 ans avec un immense guitariste qui, pour moi, ça a été comme un père spirituel. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très important. Et on a fait ce groupe Nazana qui a duré 3 ans et puis qui, après le départ du guitariste, est devenu Akamul. Et donc, voilà.
Et avec ce groupe-là, vous jouiez régulièrement au CAI, c'est ça ?
Voilà, oui, tous les mercredis. Et c'est un club qui a été ouvert par des musiciens, pour des musiciens. C'est assez exceptionnel parce que c'était un laboratoire où on pouvait faire exactement tout ce qu'on voulait. On jouait tous les mercredis, mais les autres jours, il y avait aussi beaucoup d'autres groupes assez expérimentaux. Et moi, j'étais un peu le seul batteur à aimer ce genre de démarche. Donc je me retrouvais parfois à jouer 6 jours sur la semaine dans ce club. Donc j'ai vraiment, pour moi, ça a été vraiment une école, ce club-là, de jouer toutes les semaines pendant 7 ans, comme ça. Ouais, c'était une expérience incroyable.
Merci beaucoup.
Mais de rien.
Bonne soirée. Ouais. Dans ce monde plutôt masculin, il est une femme indispensable. Elle s'appelle Eve, mais il arrive qu'on l'appelle Hortense. Elle nous reçoit le lendemain du concert d'Akamoun, au cœur de la Jazz Station, dans les bureaux de l'organisation qu'elle préside.
Bonjour, je m'appelle Eve Bevens, je suis pianiste de jazz et également présidente des Lundis d'Hortense, association de musiciens de jazz belge pour la promotion et la diffusion du jazz belge. Donc en fait, nous, on est hébergés par la Jazz Station, donc nos bureaux sont là. on se réunit aussi là-bas et on programme les concerts du mercredi. Mais on collabore, mais on est assez indépendant en fait.
Peut-être pour parler de ta fonction au sein des Lundis d'Hortense un petit peu. Quel est ton rôle et puis à quoi sert cette association dans le paysage bruxellois ?
Donc en fait, c'est une association qui est conventionnée, subsidiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc qui travaille pour toute la Wallonie et Bruxelles, donc tout ce qui est la partie francophone du pays. Et donc c'est une association de musiciens qui a 40 ans et qui est née à un moment où il n'y avait rien qui était fait pour le jazz. Il n'y avait aucun franc de subside investi pour le jazz. Et donc voilà, qui essaie de faire reconnaître toutes les musiques marginales, dites marginales à l'époque, et qui étaient vraiment marginales, voilà, de leur donner une plus grande place, une plus grande visibilité. Donc ça, c'était l'origine des Lundis. Maintenant, le contexte a évidemment évolué.
Et donc, quel type d'action, d'activité vous avez mis en place ?
Donc, on organise des concerts en Wallonie. On a des partenariats avec des centres culturels où on leur propose une programmation. Donc, on organise 8 tournées par an, cette jazz tour. Des centres culturels qui, sans nous, programmeraient sans doute moins, voire pas de jazz. Donc, on les incite à programmer du jazz. On organise aussi une série de concerts à Bruxelles, ainsi que la journée sur la grande place du jazz marathon. Mais maintenant, je sens aussi que l'impact d'initiatives comme ça et d'initiatives de promotion en général par rapport au jazz, ça permet de le rendre plus accessible, parce que malgré tout, j'ai l'impression que les gens ont quand même une fausse idée du jazz et qu'ils pensent que c'est réservé à une élite qu'il faut connaître pour pouvoir apprécier. Et souvent, les gens viennent dire « Ah oui, moi, le jazz, j'aime pas trop, mais ce que vous faites, j'aime bien. » Et ça, en tant que musicien, on l'entend tous. Donc, en fait, ça montre bien qu'en tant que public, mais il faut venir au concert, il faut participer, il faut assister pour rentrer dans le truc. Et qu'une fois qu'on est pris dedans, parce que c'est une musique qui marche énormément avec l'énergie et le rapport au public, ben, on rentre dedans et puis on s'en fout du reste, des a priori qu'on peut avoir ou qu'on avait avant.
Et ça vient d'où, les Lundis d'Hortense ?
En fait, il y avait dans une villa à Willard une communauté d'artistes. Et ils avaient appelé la villa Hortense, parce que c'était une magnifique maison, on est allé voir d'ailleurs, de serristes des années 30. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et voilà, et c'était tous des artistes que je mentionnais tout à l'heure, qui faisaient de la musique, mais qui n'étaient pas vraiment reconnus ou subventionnés, etc. Et qui se sentaient un peu en marge du circuit culturel traditionnel et officiel. Et donc, ils se réunissaient tous les lundis. Afin de mettre des choses en place, organiser des tournées, etc. Et puis quand il a fallu donner un nom à l'association, ben voilà, c'est devenu les Lundis d'Hortense.
Ça reféminise en plus un petit peu ce
oui,
milieu.
Oui, c'est ça, parce que parfois on m'appelle Hortense.
Ben, en fait, nous, on s'intéressait un petit peu à la scène jazz bruxelloise et on s'est peut-être aussi rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans ce milieu.
Mais je pense déjà que par rapport à la génération qui me précède, la génération Nathalie Laurier, on est quand même plus nombreuses en tant que femmes. Et ça, c'est dû à l'essor des conservatoires, où l'enseignement du jazz s'est vraiment ouvert. Donc il faut reconnaître que ça s'est féminisé, je pense, des 15-20 dernières années.
Moi, j'avais peut-être juste une question plus sur quel est ton emploi du temps, du coup, parce que tu es multicasquette, tu as ton activité d'instrumentiste, donc de pianiste, tu as ton activité de compositrice et puis aussi de leaduse de groupe, donc de coordinatrice plutôt, et puis aussi cette activité donc, avec les Lundis d'Hortense. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que ça donne une semaine d'Eve Bevens ?
Je donne cours 15 heures par semaine, donc 3 demi-jours. Puis je m'attelle aussi à démarcher pour mon groupe, ça c'est une tâche assez ingrate en tant que musicien. Et puis, à côté de ça, je joue un peu moins pour le moment, mais quand même toujours un peu en tant que sidewoman. Là, voilà, il faut que je m'investisse aussi à travailler les morceaux, répéter, etc. Et puis, après ça, j'ai ma pratique à moi, mes gammes, mes morceaux que je compose, mes petites choses que je veux améliorer dans mon jeu, etc. Donc, voilà. Effectivement, ça, c'est une grande tâche des musiciens, je pense, maintenant. C'est qu'on attend beaucoup plus de nous à pas mal de niveaux, en fait. Je pense que dans les années 50, un bon musicien, ben, il savait juste jouer, il jouait bien, il se pointait là où on l'appelait, super. Maintenant, un musicien, il faut pouvoir faire des sites internet, il faut pouvoir faire des flyers de promo, il faut pouvoir s'occuper de nos démos, il faut pouvoir démarcher. Ça, c'est des tâches qu'il n'y avait pas avant,
Et est-ce que tu fréquentes encore les jams, du coup, ou là-dedans, tu trouves encore le temps ou...
Ah, j'ai besoin, moi, parfois, ça me... souvent on joue des standards et c'est le moment d'explorer par rapport à ce matériel jazz qui nous est tous commun, parce qu'on joue de plus en plus de compositions originales hein, dans des groupes. Voilà, c'est de plus en plus rare les groupes qui tournent en jouant des standards. Or, c'est ça notre terreau, quoi. C'est ça notre langage commun. Et les compositions personnelles, ben, elles sont toujours issues de ça d'une manière ou l'autre aussi. Donc c'est bien de nourrir ça et de chercher à continuer à explorer là-dedans.
Des standards de jazz, on peut en entendre résonner jusque tard dans la nuit, du côté du Châtelain à Ixelles. Chaque jeudi, dans un petit bar de quartier, se retrouvent certains des meilleurs musiciens de la capitale.
Ça va ? Ah, mais on connaît tout le monde ici, en fait.
T'as loupé le meilleur, je viens de finir de jouer. Bah ouais.
Et après,
nous sommes au chapitre, tenu par Robert, son patron charismatique. Parmi une faune de noctambules, amateurs de bière et de musique, on croise Daniele Martini, un saxophoniste.
On s'est présenté ?
Non, bah Alice, Daniele, Alice.
Mais enchanté, soit pour la première fois ou réenchanté.
Réenchanté.
Qu'est-ce que ça t'apporte de fréquenter la jam ?
Je pense que dans le meilleur des cas, tu arrives à faire de la belle musique. C'est aussi de rafraîchir un peu le répertoire, parce que sinon, si on étudie simplement à la maison, ça marche pas, quoi.
Et du coup, c'est aussi l'occasion de retrouver des amis d'ici, oui, de la scène.
Oui, on se connaît plus ou moins tous, donc oui, c'est clair.
Dans c'est un peu un petit village, quand même.
Oui, quand même, ouais. Mais un petit grand village.
Ouais.
Oui. Même dans une jam pas trop peuplée comme ce soir, il y avait deux, trois musiciens, nouveaux musiciens que j'avais jamais vus. Il y en avait un que je connaissais comme saxophoniste et j'en savais rien, mais il est devenu batteur. Donc voilà, beaucoup de nouvelles pour une petite jam. Et je dois dire, Bruxelles, c'est beaucoup comme ça. Donc,
Toi, tu viens d'où ?
D'Italie, de Rome.
De Rome ?
Ouais.
Okay. Et quand est-ce que tu es arrivé ici ?
Ça fait 9 ans.
Donc, est-ce que tu es plus romain ou bruxellois ?
Plus romain ou plus bruxellois ? C'est une question piège parce que ça ouvre aussi, pour mon cas particulier, le fait que je suis d'origine étrangère. Donc déjà à Rome, j'étais un peu un objet non identifiable.
Tu avais des origines d'où ?
Moi, j'ai des origines chinoises et hongroises. Donc je me retrouve très bien ici où c'est un peu le crossing point, melting pot, oui, que c'est pas là une exception d'être métissé ou voilà.
Donc toi, quand t'es parti et t'es venu ici, tu avais en tête de venir faire tes études ici?
Non, moi j'ai fait mes études aux Pays-Bas et puis j'ai suivi un peu une vague de. On a plus ou moins tous suivi. Manolo Cabras, qui était un peu le premier de notre groupe, du groupe qui était aux Pays-Bas. C'est un bassiste sarde. Et donc, lui, il a un peu ouvert la piste. Je pense qu'il avait raison. C'est clair que pour ce que je voudrais faire avec ma musique, je pense que c'est un lieu idéal. Idéal ? Point d'interrogation. Idéal ?
Pendant que les musiciens improvisent, nous rejoignons Bernard devant le bar. Son appareil photo toujours en main, c'est lui qui documente les soirées du chapitre.
Bon, et toi qui es un homme d'image, comment est-ce que tu décrirais cet endroit pour quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds ?
C'est un endroit qui vit des gens qui l'habitent. Quand on,
On arrive à 5 heures de l'après-midi quand Robert ouvre l'établissement et il n'y a personne. À ce moment-là, il n'y a rien qui le différencie d'un quelconque café de la ville. Il n'y a aucune distinction. L'endroit est tout à fait, standard.
Pourquoi tu dis que c'est un endroit mythique ?
Oh, ben parce qu'il n'y a plus personne qui ignore à Bruxelles que le chapitre est un endroit où viennent s'exprimer les meilleurs musiciens qui puissent se trouver ici à Bruxelles. En tous les cas, parmi les jeunes générations, ceux qui ont encore le courage d'aller jusqu'au bout de la nuit et de vivre l'expérience du jazz telle qu'elle doit se vivre, probablement.
Et en même temps, il y a un truc assez particulier, parce qu'on est dans un quartier, on est à Ixelles, près du Châtelain, c'est quand même un quartier assez huppé.
Oui, mais je pense qu'il n'a pas toujours été le quartier qu'il est aujourd'hui, investi d'eurocrates et de gens de cette classe-là. C'est peut-être le mérite, effectivement, de Robert, c'est d'avoir maintenu ici un endroit qui, à la fois, est, il faut dire, de haut niveau par rapport aux prestations des gens qui viennent, mais qui en même temps reste populaire avec un prix des consommations, par exemple, qui est très révélateur, qui reste tout à fait abordable et volontairement pour cette raison-là.
Ça, c'est Renaud. Alors, je te présente Renaud. Renaud est le premier animateur des jams de jazz ici au chapitre depuis donc une dizaine d'années presque, non ?
Premier.
C'est surtout Robert, c'est surtout Robert. Le patron.
Oui,
une rencontre.
Tu parlais peut-être de l'aventure, comment ça a démarré ?
Je crois que c'est surtout une question de personne. Parce que d'une part, il aime vraiment ce qu'il fait. Il aime vraiment écouter cette musique. Et sinon, ça ne fonctionne pas. Dans mon expérience, les gens qui veulent faire ça, qui tout d'un coup se disent dans une option business, oui, on va faire de la musique, ça marche un temps et puis ça s'endort. Et parce que les musiciens n'y viennent pas, parce que... Voilà.
Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent ici s'essayer.
Moi, je reçois plein de demandes de gens de partout pour jouer ici. Il y a des gens qui sont surpris. J'ai déjà reçu des mails du Danemark et de gens qui se disent « Oui, on va venir en Europe et on aimerait venir jouer au chapitre. » Je dis « Mais vous savez, c'est un petit bistrot. » Et voilà, c'est amusant, quoi. Voilà, ils ont le temps de parler.
Robert, on parle de toi. Hein.
On parle de toi.
Ouais. Alors, c'est un vrai là.
Bah, voilà. Je suis en train. Il me dit que tu es le pilier.
Là,
il
parle de toi,
mais lui parle de toi, alors c'est compliqué.
Parce qu'il est amoureux de moi, c'est autre chose.
On peut te demander des bières d'ailleurs.
Je t'en ai donné deux, la deuxième.
Voilà. Oh, les lumières bleues.
C'est l'heure de la police.
Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, on voit la police arrive pour le bruit, tu vois.
Là, ça va être une amende de 200 euros, peut-être ?
En général, c'est 200, quand même. Hein.
Ouais. Mais il a le droit,
Il a le droit, mais voilà, il y a parfois des voisins qui se plaignent un peu, et alors, voilà, bon. C'est compliqué.
Il faut rentrer.
On doit dégager la terrasse. Alors que les longues nuits du chapitre sont interrompues de plus en plus tôt par les autorités, il se murmure qu'à Anderlecht, un nouveau lieu dédié au jazz est en passe de voir le jour. Le maître d'œuvre, c'est Toon Verbruggen, un batteur de jazz flamand. La curiosité nous mène jusqu'au chantier.
salle de sport avant ou quoi?
Oui, oui.
Et il y a toujours l'enseigne, oui.
Moi, j'ai été plusieurs fois. C'est ça que je veux, la porte ouverte, c'est ça que j'ai demandé.
Ah, d'accord.
Ce n'est pas loin de chez moi, c'est ça que j'ai demandé.
Ah non, ce sera plus du sport. Mais ce sera bien aussi, ce sera aussi ouvert au public.
Ça va, ok. Merci beaucoup.
Mais de rien, au revoir. Bonjour. Tu vois, il y a déjà des gens qui demandent ce que c'est que ce lieu, quand est-ce que ça va ouvrir. C'est vrai, ils demandent tous les jours.
Bonjour.
Bonjour.
Enchanté.
Enchanté. Bon, alors du coup, voilà le chantier.
Oui.
Ouais. C'est une grande, belle salle. Et alors avant, c'était ici qu'il y avait les cours de sport.
Oui. C'est le but de faire plusieurs ateliers pour des gens dans le domaine artistique, en fait.
Mm-hmm.
Et en haut...
Ah oui, c'est vraiment voilà. le pigeonnier, quoi.
Oui. Ici, je veux faire un lieu pour la musique, pour répéter.
Oui.
Et une salle de concert. Et ici, un bar, un truc pour faire des résidences.
D'accord. Donc, il y aura une partie studio vraiment bien isolée et une partie salle de concert.
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça que,
il y a trop peu de lieux.
Il y a trop peu de lieux.
Ouais. Et j'en avais marre. Donc, voilà, j'ai commencé moi-même.
D'accord.
Oui.
Mais pendant ce documentaire, on a rencontré Akamoun,
ouais.
Qui nous disait que à leur époque, il y avait un lieu où ils allaient tous les soirs.
Oui, c'est ça. C'est le CAI, en fait.
Ouais.
Le CAI. C'est un peu ça que je veux créer ici.
D'accord.
Un truc comme ça pour les musiciens où ils peuvent être tous les soirs, jammer, faire des choses, être ensemble. Voilà.
D'accord.
Le nouveau CAI, quoi.
Ça va être quelle ligne esthétique?
Ah, la mienne.
Donc plutôt musique improvisée.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais.
On peut peut-être redescendre.
Oui.
Oula, attention à la tête. Mais du coup, en fait, ça va pas être accessible au public, en fait.
Si. Ah oui, bien sûr. Ça va être une petite salle de spectacle pour le public, oui.
On est rue Van der Linde, c'est vraiment juste derrière la commune d'Anderlecht.
Oui, tout à fait. Oui. Et c'est pour ça que c'est aussi encore faisable ici, en fait, pour commencer quelque chose. Si tu veux faire ça en centre-ville, oublie, quoi. Un bâtiment comme ça, tu ne peux pas acheter. Quoi.
C'est combien de mètres carrés d'ailleurs, tu sais?
1300 au total.
D'accord, ok.
Comme j'habite ici depuis 10 ans ou 11 ans, c'est normal que je le fais ici. Voilà, je crois que... On peut faire des belles choses ici,
mm-hmm.
à Anderlecht. C'est le nouveau Saint-Gilles, quoi.
Et est-ce que tu peux te présenter? Je ne te l'ai pas encore demandé.
Ah, moi, je suis Teun Verbruggen, batteur de jazz de Bruxelles. Quoi.
Tu es vraiment bruxellois, toi?
Non, je suis anversois, mais j'habite ici.
Est-ce que d'ailleurs, en tant qu'anversois et jazzman flamand à Bruxelles, mm-hmm. est-ce que toi, tu sens des différences, des réseaux de musiciens flamands ou francophones, ou est-ce que c'est très bien mélangé?
Non, ce n'est pas très bien mélangé, c'est très... Ça ne se mélange pas trop, je trouve. Pas suffisamment, en tous les cas. Vrai.
Alors, peut-être ton lieu va changer la donne.
Espérons, hein. Espérons.
Quelques mois plus tard, chacun se presse rue Van Lint pour assister à l'ouverture du Walter.
Bedankt om zo talrijk hier te zijn. Thank you for being here so incredibly so many people. And I'm a little bit drunk. I was very nervous for this evening, so I drank some wine. Merci pour être là, la première soirée de Walter.
Alors ce soir, j'ai joué donc avec mon groupe qui s'appelle Les Chroniques de l'Inutile dans ce nouveau lieu à Anderlecht, ouvert par Teunverbruggen, qui s'appelle le Walter. Et je crois que ça va être un très très chouette lieu.
C'est un lieu un peu informel.
Il est informel pour le moment parce qu'on est parce qu'il est en travaux et que c'est assez loin d'être fini. C'était une espèce de pré-visite aujourd'hui et puis on en a profité pour faire notre concert de sortie. Mais je ne crois pas du tout que ce sera un lieu informel dans le futur. Non, ce sera un lieu tout à fait officiel, tout à fait avec une programmation et avec toute une visibilité tout à fait officielle, je crois. C'est vraiment un projet assez ambitieux, je crois, ce que fait le Walter. Donc on est super content de venir ici pour la sortie avec les chroniques.
Ouais. Ce que je me dis, c'est que c'est chouette qu'il y ait un nouveau lieu, mais par exemple, ce soir, par exemple, vous étiez payé au chapeau. Est-ce que ce sera toujours le cas ou est-ce qu'il y aura un financement ?
Ça, je ne sais pas. Je crois que ce n'est pas du tout décidé. Nous, il se trouve que là, ça faisait partie d'une soirée bien spécifique parce que c'était une pré-ouverture. Il ne s'agit même pas d'une ouverture. C'est-à-dire que l'idée pour Tun, c'était de faire visiter le lieu à un maximum de Bruxellois qui voient un petit peu où ça se trouve. Évidemment, si tu mets un prix d'entrée à 10 euros, ce qui est ce que ça coûterait, à vrai dire, pour rendre les choses un tout petit peu décentes pour mon groupe, alors on perdait un tout petit peu sur sa perspective. On aurait pu le faire. C'est un choix que j'ai fait de le faire comme ça. Mais je ne crois pas que c'est révélateur de comment ça se passera après.
D'accord. Ouais.
Mais ça, c'est la question de la curiosité. Moi-même, quand je vais voir quelque chose qui coûte 10 euros, si je ne le connais pas, je n'y vais pas forcément. Je crois que de toute façon, pour les musiques dans lesquelles je me trouve un petit peu impliqué la plupart du temps, il y a un peu tout un travail à faire pour faire venir la musique aux gens et du coup faire venir les gens à notre musique. Et que ce travail-là n'est pas évident, mais c'est un peu un grand pari. J'ai l'impression qu'il y a toute une chose à créer. Je crois que c'est un équilibre à trouver, d'autant que pour faire jouer une scène locale, c'est pas les mêmes choses que quand tu fais jouer des stars ou quand tu fais une programmation de festival. Là, il s'agit pas de ça, tu vois. Il s'agit d'un truc qui va avoir une programmation peut-être fréquente. Donc, c'est un peu d'autres problématiques. Quoi. Et c'est pas très facile, je crois. C'est pas très facile.
Tu avais le sourire aux lèvres pendant que tu jouais.
Pendant le concert ?
Ouais.
Bah oui, écoute. Mais c'est aussi que ces 7 musiciens, je ne parviens pas très souvent à les réunir. Quand c'est le cas, ça me rend assez heureux.
D'hier à demain, du bebop aux avant-gardes, les générations de musiciens se succèdent et réinventent Bruxelles dans une longue nuit de musique sans cesse renouvelée. C'était Bruxelles au fil du jazz.
Un documentaire conçu et réalisé par Alice Lemaire
et Chila Deac,
avec dans l'ordre d'apparition
Manu Hermia,
Dario Piccioni,
Oscar Georges,
Marc Danval,
Kostia Pace,
Véronique Antonio et Gilou,
Stéphane Galland,
Eve Bevens,
Daniele Martini,
Bernard Rosenberg,
Renaud Dardenne,
Robert Petitjean,
Teunverbruggen,
Benjamin Sauzereau.
Avec les compositions de Nasana,
jouée par Akamoun et Hervé Sambre,
et celle des Chroniques de l'Inutile.
À tous ceux que nous avons croisés au fil de nos nuits blanches,
dans le désordre d'apparition,
Yotis Damianidis,
Mathieu Vandanabele,
Grégoire Tirsio,
Daniele Esposito,
Lieven Wenken,
Yannick Dupont,
Lionel Cataldo,
Pauline Leblon,
Julien Gillin,
Jacques Provost,
Audrey Leroux,
Antoine Marcel,
Ishtar Karamemet,
Fabricio Cassel,
Michel Atzi-Georgiou.
Un grand merci.
Un générique improvisé par Grégoire Tirsio, Jordi Grognard et un musicien de passage,
sur You Don't Know What Love Is.